France Info.
Bonsoir, bienvenue dans Les Informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. On se pose souvent la question sur la performance physique des candidats, mais comment font-ils pour tenir le rythme? Mais eux aussi, ils ont tenu, et en cette dernière semaine, ils en redemandent la preuve, ils viennent même un jour férié. Voilà, c'est vous dire, hein. Et on ne leur a même pas promis de chocolat, quel exploit. Et ce soir, Les Informés de France Info reçoivent Michel Hurvoy de Ouest France, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Également la journaliste Aude Rossigneux, bonsoir.
Bonsoir.
François Lorcival de Valeurs Actuelles, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et bien dans le cadre de la campagne officielle, puisqu'on va tous les faire, c'est normal, les candidats, vous n'y échapperez pas. Nous recevons ce soir Christine Bière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Jacques Cheminade. Et ce soir, nous parlerons de président plus que président en Turquie, de l'euro qui divise les candidats. Mais pour l'instant, dans Les Informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Et voilà, c'est la dernière ligne droite. On n'est pas tellement nostalgique, mais dernière ligne droite, l'expression la plus utilisée dans cette campagne, hein, puisque c'était déjà le cas au mois de novembre pour la primaire de droite, au mois de janvier pour la primaire de gauche, au mois de mars après le dépôt des 500 signatures. Ça sera encore le cas dans deux semaines pour le second tour, puis pour les élections législatives et le jour d'intronisation du nouveau président, puisque ce sera la dernière ligne droite avant les présidentielles de 2022. Voilà, au moins on s'entend. Et cette semaine sera un feu d'artifice. Hein. Mélenchon, à peine descendu de sa péniche insoumise, proposera une série de meetings en hologramme insoumis. Marine Le Pen fera des allers-retours nord-sud. Benoît Hamon joue son va-tout, place de la République mercredi. Et Emmanuel Macron, fébrile en cette fin de campagne, accélère son accélération en enchaînant les réunions publiques et démine les éventuels problèmes avant même qu'on en parle. Emmanuel Macron.
Cette semaine, vous allez entendre dire « Monsieur Macron, il a un compte caché dans un paradis fiscal, il a de l'argent caché à tel et tel endroit ». C'est totalement faux. Moi, j'ai toujours payé tous mes impôts en France et j'ai toujours eu tous mes comptes en France.
Mais ça vient d'où? De chez François Fillon, disons clairement les choses.
Je vous le laisse,
il ne viendra pas vous l'annoncer.
Mais on attend de voir déjà si certaines ou certains le sortiront. Moi, je vois certains de vos confrères hier le mettaient, des boules puantes sont annoncées, etc. Il y a des gens qui font de la politique autrement que je ne la fais.
Voilà, Emmanuel Macron ce matin avec Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Michel Hurvoy, il a raison, Emmanuel Macron, de devancer ces rumeurs.
Oui, c'est assez malin parce que ça désamorce. Il avait fait la même chose avec les attaques venant de Moscou, enfin des médias russes, contre son site. Je pense que oui, c'est une bonne manière. En politique, faut jamais, et dans la vie en général, d'ailleurs, faut jamais subir. Donc, il y en a d'autres qui avaient compris ça. En allant au devant d'informations, en créant l'événement, c'est une manière de ne pas subir. Oui. Mmh. Après, Emmanuel Macron, c'est assez amusant de constater qu'il est celui qui est l'objet de toutes les rumeurs. Sur sa vie privée, sur comme s'il était. Alors, je pense qu'il est victime de ce dont sont victimes tous les hommes politiques. Mais en plus, il a été banquier, donc forcément, il y a des histoires d'argent, forcément. Mmh. Et donc, ça circule. Mais il y a des attaques incessantes. Enfin, on est inondés, nous journalistes, et sans doute pas que nous, de messages plus ou moins subliminaux, d'attaques sur son vrai patrimoine, sur ça n'arrête pas.
En même temps, on a été habitué pendant cette campagne à avoir des choses qui sortaient
voilà,
un peu tout le temps.
Voilà, pourquoi il serait le seul à ne pas en avoir. Voilà, il y a un peu de
non,
ça.
Non, moi, je trouve ça à double tranchant de savoir de prendre les devants comme ça. Il faut se souvenir qu'en 2003, il y avait des rumeurs sur d'éventuels scandales sexuels autour du prince Charles en Grande-Bretagne. Et puis, ça bruissait dans quelques milieux londoniens plus ou moins autorisés. Et ça a inquiété Buckingham qui a décidé à ce moment-là de publier un démenti. Et à ce moment-là, ça a fait la presse mondiale. Donc, alors évidemment, c'est pas le cas pour Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est toujours un petit peu dangereux.
Ouais,
ce genre
de choses. François Orcival, pour vous aujourd'hui, alors c'est vrai que peut-être que le grand public n'avait pas entendu parler de ces rumeurs jusqu'à présent. Donc lui préfère vraiment prendre les devants parce qu'il se dit c'est la dernière semaine.
Michel a raison. Le passé de banquier d'Emmanuel Macron depuis le début alimente des fantasmes anti-Macron parce que l'argent. Là-dessus, l'argent, on voit bien que Benoît Hamon en parle assez souvent, des candidats malhonnêtes, de ceux qui ont de l'argent. Le financement de la campagne d'Emmanuel Macron est lui-même un sujet. On a été interrogé 20 fois mais d'où vient l'argent, etc. C'est vrai qu'il multiplie les meetings, comme tout le monde, et une campagne présidentielle, ça coûte cher. La nouveauté, c'est les paradis fiscaux. Ça, J'avais pas entendu parler de ça.
Oui.
Et là, maintenant, c'est lui qui le met directement sur la place publique. Pourquoi, comment, dans quelles conditions, qu'est-ce que ça signifie, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de l'anticiper ou de le démentir d'avance. On verra bien ce qui se passe.
Alors, Christine Biat, vous soutenez justement Jacques Chemillat, on va en parler dans un instant, mais je voudrais avoir votre point de vue justement de porte-parole, finalement de concurrent dans cette course à la présidentielle. Comment vous le voyez, vous, Emmanuel Macron?
Je trouve qu'il ne faut pas aller chercher les complots, c'est caché, les choses se font ouvertement. C'est M. Macron a été chercher son argent lorsqu'il a lancé sa candidature présidentielle à la City de Londres. Mmh. Il a avec des banquiers de Paris-Bas qui ont travaillé avec HSBC, c'est toutes les banques spéculatives. Donc, c'est là on voit où est-ce qu'il va chercher l'argent. Et ensuite, il y a le fait que Jacques Cheminade avait discuté avec lui c'est 4 fois à l'Élysée pour lui présenter la réforme bancaire au moment où nous étions au plus fort de la crise bancaire. Nous sommes encore là-dedans. Et lui, il a dit qu'il comprenait bien que cette politique était la bonne, mais qu'ils avaient choisi de faire autrement. Donc je crois que quel que soit l'endroit où il a caché son argent, ce qu'on voit, c'est nous, les concurrents.
On ne sait pas s'il l'a caché.
Nous on voit, nous ce qu'on voit, c'est qu'il a des relations avec le monde de l'argent qui vont l'obliger à aller dans certaines directions et qu'il faut dénoncer.
Oui, Audrey Sillon, on l'entend. Voilà, ça, toujours, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ces relations, voilà, avec le monde de l'argent. Emmanuel Macron, c'est vrai qu'on en aura parlé pendant toute la campagne. Pour reprendre Benoît Hamon, on se souvient pendant le débat, avait dit les lobbies.
Absolument.
Même aux mains de pour Emmanuel Macron.
Même les gens disent le banquier Macron très souvent quand même. C'est quand même beaucoup ce qu'on entend. Donc effectivement, il est lié à ça. Et effectivement, avec les déclarations qu'il vient de faire, effectivement, il a intérêt à ce que rien ne sorte. Parce que quand on joue les messieurs propres, ça serait calamiteux. Les gens font déjà le parallèle avec Cahuzac.
Oui, on l'a déjà vu pendant cette campagne. Allez, l'info à 20h10, Pierre-Yves Bonneau.
Recep Tayyip Erdogan annonce un nouveau référendum en Turquie sur une suspension des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Le scrutin d'hier n'est pas aux normes édictées par le Conseil de l'Europe, selon un représentant de l'organisation basée à Strasbourg. Le cadre juridique de ce scrutin serait insatisfaisant. Le Conseil de l'Europe pointe aussi des modifications de dernière minute dans la procédure de dépouillement. Le renforcement des pouvoirs du président Tayyip Erdogan a été voté à 51% des suffrages. La Corée du Nord se dit prête ce soir à réagir à n'importe quel type de guerre des États-Unis. Les provocations diplomatiques se poursuivent autour des essais de missiles de Pyongyang. La Russie espère que les États-Unis n'agiront pas de manière unilatérale. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, prévient Washington, il ne faut pas violer le droit international en utilisant la force, même s'il dit ne pas accepter les aventures nucléaires et balistiques de Pyongyang. 1500 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes en grève de la faim. Les prisonniers répondent à un appel lancé par Marwan Barghouti, responsable du Fatah, qui purge une peine de réclusion à perpétuité. Les Palestiniens protestent contre les mauvaises conditions de détention dans les geôles israéliennes et la pratique de la détention administrative. Deux joueurs lyonnais portent plainte contre X pour violence en réunion après les échauffourées qui ont entaché le match Bastia-Lyon hier soir. Information du parquet corse qui parle de faits d'une gravité certaine. Une enquête est en cours, aucune arrestation pour le moment. Hier, des supporters corses ont envahi la pelouse avant et pendant le match, prenant violemment à partie les footballeurs de l'OL.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette dernière ligne droite, puisque le vote, c'est dimanche. N'oubliez pas vos procurations pour aller voter. Alors, c'est la dernière ligne droite pour tous les candidats. Et justement, nous avons une porte-parole autour de cette table. C'est vous, Christine Biat, vous êtes porte-parole de Jacques Cheminade. Et alors, je ne sais pas comment vous abordez cette dernière semaine, mais je voudrais vous faire écouter juste un son, justement, de ce matin, de Jacques Cheminade, qui est pas au top, justement, cette dernière semaine. On va l'écouter. Lui-même se dit assez rallié sur sa situation. On l'écoute, Jacques Cheminade.
Pourquoi je peux pas gagner, c'est très simple, ça se fait avec de l'argent, et on a un budget de 400 000 euros.
400 000 euros. Tout en a 800 000 euros à côté,
c'est la vie de moi, donc probablement il est plus argenté, je sais pas. Et non, 400 000 euros, c'est une réunion d'Emmanuel Macron. Donc c'est peu, mais en même temps, on peut faire beaucoup avec peu. C'est ce qu'on appelait dans l'histoire le principe de moindre action. C'est-à-dire avec moins d'action, vous avez beaucoup plus de résultats.
Voilà, Jacques Cheminade, ce matin sur LCI. Christine Bière, c'est ça aussi, finalement, c'est le peu de moyens qui fait qu'on ne peut pas faire des plus gros scores que ceux, finalement, aujourd'hui, des instituts de sondage vous
Le peu de moyens joue énormément. C'est, par exemple, les couvertures médiatiques. Il y a eu des sondages qui ont été publiés, des graphiques, où on voit, par exemple, que c'est en 2012, c'est, Sarkozy a eu 59 heures, pratiquement 60 heures de couverture, et il a eu les résultats qu'on connaît, c'est, alors que Jacques Cheminade avait eu 270 fois moins que lui. C'est, et si on fait la courbe de l'argent, c'est pareil. Si on a beaucoup d'argent, clairement, on peut mieux se faire connaître. Mais je dois annoncer là, ici, sur votre plateau, c'est surtout que demain soir, Jacques Cheminade fait un meeting internet à 19h30 du soir.
On en parlera, vous inquiétez pas. Voilà, on vous en parlera. Justement, quand on parle de dernière ligne droite, Michel Hervoy, il y a souvent un dernier sondage, on voit François Fillon qui se rapprocherait du candidat de En Marche. Ça veut dire que c'est une dernière semaine quand même tendue pour Emmanuel Macron et même Marine Le Pen, qu'on met en permanence en premier ou deuxième ?
Très tendu, parce qu'il me semble que jamais dans une présidentielle à 6 jours d'un premier tour, on a à la fois un taux d'incertitude aussi élevé et un resserrement aussi fort à 4. Donc, il y a des raisons, les candidats ont des raisons d'être tendus. Les choses ne sont pas figées du tout, c'est en millions que se compte le nombre de citoyens qui peuvent faire changer le scrutin. Après, les choses peuvent se répartir de manière proportionnelle, enfin de manière égalitaire entre les candidats. Ça n'est pas sûr du tout. Et on voit bien qu'il y a des tendances, que ça bouge. On voit bien que Marine Le Pen est sur une pente légèrement descendante. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'au moins un mois. Et ça s'est même accéléré lors du premier débat où elle avait été vivement attaquée sur l'Europe et sur ses financements.
Alors justement, il y en a un en ce moment-là qui est aussi en campagne. Bien sûr, pendant ce temps-là, c'est François Fillon. Lui, il est à Nice, hein, où il tient mais juste avant, il a répondu à une interview sur Snapchat où l'on a appris qu'une fois élu, il n'aurait pas le pouvoir de fixer le prix des kebabs. Et oui, c'est un point assez peu abordé dans cette campagne, mais c'était une question, en tout cas d'une personne. Mais 24 heures plus tôt, François Fillon allumait une nouvelle polémique, notamment dans son camp, en affirmant sur Radio J qu'il n'excluait pas de nommer des ministres venus de Sens Commun. Sens Commun, c'est un mouvement issu de la manif pour tous, catholique, conservateur, et ça ne passe pas, notamment à droite, comme le député et ancien ministre de l'Agriculture Dominique Bussereau, qui n'a pas hésité à tweeter l'arrivée de Sens Commun au sein du Parti des Républicains a été une erreur. Sa présence dans un gouvernement serait une faute. François Orcival, François Fillon, en pleine opération, il divise son camp, là ?
Non, je ne suis pas sûr que ça aille si loin que ça.
Parce qu'on a vu tous les jupéistes qui ne comprenaient pas pourquoi François Fillon...
Oui, mais les jupéistes, vous savez très très bien la position qui est la leur, qui est quand même une position de réserve. Et donc, que ceci soit illustré par la position de Dominique Bussereau ne m'étonne pas énormément. En revanche... Ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi tant d'émotions autour de Sens Commun. C'est vrai que ce sont les organisateurs de la Manif pour tous, qu'ils ont su encadrer, provoquer, animer des manifestations très importantes. Cela dit, on ne voit pas pourquoi ils disparaîtraient. Et il est vrai que, de la même manière que Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, a fait appel, lui aussi, à des mouvements pour encadrer ces meetings, eh ben, il est naturel que François Fillon en est également aujourd'hui.
Alors, Audrey Signeux, pour vous, c'est n'importe quel mouvement, justement, Sens Commun ? C'est un mouvement comme
non,
les autres ?
Non, mais moi, je ne pense pas que ce soit un n'importe quel mouvement, mais je pense qu'il ne faut pas faire mine de s'en étonner maintenant. C'est-à-dire on peut considérer... Moi, je pense que ce n'est pas n'importe quel mouvement, mais le découvrir maintenant, c'est un peu jouer les vierges effarouchées, justement, dans la dernière ligne droite dont vous parliez si bien. parce que, et puis, c'est raccord avec ce qu'est François Fillon. Enfin, il avait voté contre la dépénalisation de l'homosexualité, il avait voté contre le remboursement de l'avortement. Enfin, ça n'a jamais été un grand féministe et un grand progressiste sur les questions sociétales. On le sait. Donc, si tout le monde d'un coup qui dit « Oh, mais dis donc, Sens Commun pourrait être au gouvernement bah, ?» Bah oui, Sens Commun pourrait être au gouvernement. Enfin, moi, ça me semblait évident. Enfin, ouais. Quand on vote Fillon, il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir Sens Commun au gouvernement. Pour moi, c'était déjà inclus dans l'offre.
Dans l'offre de Michel Urbain.
Non, je crois qu'effectivement, Aude a raison. Il n'y a pas de quoi s'étonner ni s'offusquer. En revanche, ça peut avoir des conséquences dans l'hypothèse où François Fillon accéderait au second tour. Parce qu'au moment de voter pour François Fillon contre Marine Le Pen, j'imagine qu'il y a un certain nombre d'électeurs au centre et à gauche qui auraient de plus en plus de difficultés à le faire à cause de l'insistance mise sur cette sensibilité de Sens Commun.
Oui, il ne faut pas oublier, pour ce qui est d'un second tour, il ne faut pas oublier non plus que le lundi de la dernière semaine de la primaire de la droite, On a entendu du côté de Juppé des déclarations à propos de François Fillon et de l'avortement qui étaient totalement fantasmatiques. Et donc, on est en train de dériver là-dessus. Cela dit, non, la dérive
en
question...
Quand même, c'était quand même intéressant ce point de vue, oui. De montrer que, en effet, François Fillon, sur l'avortement, avait besoin de s'expliquer, parce que pour connaître exactement sa position.
Alain Juppé l'a obligé à s'expliquer. Mmh. Mais dans cette affaire-là, est-ce que Fillon n'a pas déjà pris position depuis longtemps sur l'affaire du mariage en disant « on ne reviendra pas là-dessus, il n'est pas question d'y revenir », etc. Et donc, moi, il me semble que c'est un mauvais procès qu'on est en train de faire.
Mais est-ce que c'est pas une erreur également aussi, finalement, dimanche de Pâques, s'adresser aux catholiques que par le prisme de sens commun ? Ça veut dire que ça ne représente pas forcément
mais
tous les catholiques.
Mais non, c'est pas par le prisme de sens commun. Il y va par le prisme du puits en velay. C'est quand même pas la même
chose.
Alors
là, c'était pas exactement Puy en Velay, c'était
non,
la veille.
Non, mais je sais bien, mais quand vous me parlez du dimanche de Pâques, c'est là qu'il était. C'était pas à une réunion de sens commun. Il était au Puy en Velay. Et bon, quant à l'électorat...
Vous savez bien avec qui il était accompagné de Laurent Wauquiez, qui n'est pas
n'importe
qui
accompagné.
Au sein de
ce... Il est toujours
Laurent
Wauquiez, accompagné.
On connaît les positions de Laurent Wauquiez sur les questions de société qui sont plus proches de sens commun.
On connaît celle de Laurent Wauquiez, on connaît celle de Xavier Bertrand, on connaît celle de François Baroin ou de Valéry Pécresse. Et il est normal, mais
c'est pas les mêmes.
Et ben c'est ça un rassemblement
républicain. Mais c'est un électorat
C'est ça un rassemblement républicain.
C'est un électorat derrière lequel pas mal de gens courent. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait dit que la manif pour tous avait été humiliée.
Mais bien sûr,
de lire Christiane Taubira.
Mais heureusement
que... Donc il court lui aussi derrière cet électorat.
Heureusement que vous êtes là, Aude, pour rappeler ces choses-là.
Christine, bien pour vous, aujourd'hui, François Fillon, voilà, comment vous le voyez, vous, c'est-à-dire quand il parle de sens commun, ça veut dire qu'il se referme aussi sur des bases?
C'est-à-dire que ce qui me choque, c'est pas tant que tel groupe religieux s'associe à sa campagne ou pas. C'est ce qui me choque, c'est que ils se disent chrétiens et catholiques même, et qu'ils ne tiennent pas compte du tout de tous les encycliques des papes récemment, Jean-Paul II, c'est pour ne pas le nommer, ce pape François aujourd'hui, qui toutes s'attaquent aux puissances de l'argent, qui toutes s'attaquent au libéralisme financier. Et François Fillon se présente avec un programme thatchérite, inspiré par Margaret Thatcher. Donc ce qui me choque, ce sont ces catholiques, si vous voulez, qui, comme quand dessus à son époque, lorsqu'il était chef du FMI en train d'appliquer des programmes d'austérité féroces sur le tiers-monde, vont tous les dimanches à la confession et communient.
Allez, on va continuer à parler de la présidentielle et notamment à gauche avec François Hollande qui a fait de nouveau une sortie contre Jean-Luc Mélenchon ce week-end. L'info à 20h20, Pierrick Bonneau.
5 morts, dont 3 Français et un Suisse, dans le crash d'un petit avion de tourisme au Portugal. L'appareil immatriculé en Suisse s'est écrasé sur l'entrepôt d'un supermarché près de Lisbonne. Le pilote et les 3 passagers sont morts. Un homme qui se trouvait dans l'entrepôt a également perdu la vie. Il y a 3 blessés légers. Le vide sanitaire a débuté dans le sud-ouest avant une révision totale des pratiques des éleveurs de canards. Plus aucun palmipède dans les élevages de plus d'un millier de communes de 5 départements. Objectif, juguler définitivement l'épidémie de grippe aviaire en France. Vide sanitaire obligatoire pour une durée de 6 semaines. La victoire très contestée encore ce soir du camp de Recep Tayyip Erdogan en Turquie. L'opposition demande l'annulation pure et simple du référendum qui donne à une très courte majorité plus de pouvoir au président turc. Un certain nombre d'irrégularités dénoncées par les observateurs internationaux. Observateurs sommés de rester à leur place ce soir par Erdogan. Le camp au pouvoir rejette leurs conclusions qualifiées de biaisées et annonce l'organisation d'un nouveau référendum sur l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Les forces irakiennes gagnent du terrain dans l'ouest de Mossoul. Combat violent dans la vieille ville où les opérations pour reprendre aux djihadistes la capitale irakienne de l'organisation État islamique entrent dans leur 7e mois. Les soldats irakiens avancent maison par maison, appuyés par les avions de la coalition. Combat ralenti par la présence d'environ 400 000 civils dans les quartiers toujours sous contrôle de Daesh.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info avec ce soir Michel Urvois de Ouest France, la journaliste Aude Rossigneux, François Lorcival de Valeurs Actuelles et Christine Bière, porte-parole de Jacques Cheminade. Juste avant de parler de la gauche, encore un petit mot. Michel Urvois, aujourd'hui à Nice, François Fillon était dans un département qu'il avait mis assez haut à la primaire de droite, c'est une terre sarkozyste. On a vu une image assez étonnante de voir justement les classiques républicains venir à la rescousse de Christian Estrosi, car il se faisait siffler par la salle en rapport finalement au soutien. Voilà, quand il avait accueilli Emmanuel Macron le 1er avril, il l'a fait d'ailleurs un soutien à moitié hein, pour François Fillon. Il lui a serré la main, il est vite parti. On sent que là aussi, il peut y avoir des tensions à l'intérieur des Républicains.
Oui, ben ça montre que les plaies ne sont pas refermées. Ça montre que le travail de reconstruction de cette droite dite de gouvernement n'est pas achevé. Ça montre tout le chemin qui reste à François Fillon à parcourir pour s'assurer sa qualification. Ouais. Enfin, mais en plus, je pense que les droites sont différentes selon que l'on est à Toulon, que l'on est dans l'ouest de la France ou que l'on est dans le nord. D'ailleurs, les profils de ceux qui ont, si on regarde les élections régionales, par exemple, ne sont pas du tout les mêmes entre Xavier Bertrand, etc. Bon, donc, c'est pas les mêmes droites. Et les discours ne sont pas les mêmes. Les thèmes ne sont pas les mêmes. Et le Front National a aussi cette différence-là et cette difficulté-là.
Territorial.
Il faut se rappeler une chose, c'est que dans cette région précisément, les électeurs de Christian Estrosi ont été bien contents de voir les socialistes disparaître, parce que son score au premier tour des élections régionales n'était pas si élevé que ça.
Oui, bien sûr,
Donc il est dans une situation qui est évidemment une situation d'équilibrisme.
Voilà, et puis surtout la personne qui menait la liste pour le Parti Socialiste aujourd'hui est proche d'Emmanuel Macron, c'est Christophe Castaner, en effet aussi c'est un peu compliqué. Allez, pendant ce temps-là, justement à gauche, il y a comme un parfum de règlement de compte, Jean-Luc Mélenchon qui aurait utilisé tous les moyens de transport pendant cette campagne, aujourd'hui il était sur une péniche en Ile-de-France, bientôt peut-être une roulotte, et la cible de nombreux candidats et même du président de la République. Mercredi, ce dernier a annoncé dans le journal Le Monde qu'il fallait se méfier des Tribun, eh bien cette fois, c'était hier, sur France 5, qu'il a émis des doutes sur le candidat de la France insoumise, François Hollande.
Jean-Luc Mélenchon, il ne reprend pas la gauche que je considère comme celle qui permet de gouverner. Et il a des facilités qui, quelquefois, tombent dans le simplisme. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité dans les massacres chimiques en Syrie. On ne peut pas considérer que Poutine peut faire n'importe quoi. On ne peut pas sortir de l'OTAN sans que ça ait des conséquences. On ne peut pas mettre en cause ce qu'a été la grande construction européenne, et surtout quand on se réclame de François Mitterrand.
Voilà, François Hollande, hier sur France 5. Audrey Rossigneux, pourquoi à chaque fois François Hollande ne peut s'empêcher de mettre des tacles à Jean-Luc Mélenchon?
C'est hallucinant. Il n'est pas sorti de son silence. Quand Marine Le Pen a parlé du Veldiv en disant que ce n'était pas une erreur française, il n'a rien dit à ce moment-là, François Hollande. Mais alors là, quand il faut y aller sur Mélenchon, et ça y va, s'il avait combattu le FN avec autant d'ardeur qu'il combat aujourd'hui Mélenchon, en se rendant compte d'un coup, maintenant qu'il a 18%, que ça peut lui poser un problème, eh ben on ne serait sans doute pas là aujourd'hui. Parce que quand le FN était donné depuis des mois à 25%, lui, il bougeait pas le petit doigt. Donc, pourquoi tant de haine? Bah parce qu'il a sans doute pas pardonné à Jean-Luc Mélenchon, avec Emmanuel Macron, d'enterrer le PS qu'il avait laissé, cela dit, lui-même, dans un très mauvais état.
Alors, il y a ça, Michel Hervois, mais on sent que entre les deux hommes qui se connaissent très bien, hein, ils étaient ensemble au PS, il y a un règlement de compte entre les deux.
Ça a commencé le premier jour du quinquénat. Donc,
et même avant, non? Parce qu'en fait, notamment depuis 1995, même en fait, au sein du PS, ils ne s'aiment pas.
Ils ne s'aiment pas, mais ils n'ont pas surtout le même projet politique. Et le projet politique de Jean-Luc Mélenchon, c'est de briser la gauche, de la recomposer et d'essayer de trouver une majorité à gauche de la gauche. Sur le fond des choses, ils sont en position extrêmement différente. En matière économique, il n'y a pas grand-chose de commun entre Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas du tout la même gauche. Ouais. Hein, il était doloriste à l'origine. François Hollande, c'était des clubs témoins quand même.
C'est pas du tout la même. Il n'y a pas que les règlements de compte personnels qui entrent là-dedans ou les différences de projet. Il y a un troisième élément, c'est la possibilité d'une victoire. C'est-à-dire c'est la possibilité d'un duel Marine Le Pen-Jean-Luc Mélenchon. C'est l'horreur, évidemment, absolue pour François Hollande, et pas que pour lui, d'ailleurs. Et donc, je pense qu'il veut absolument éviter ce scénario-là, même s'il ne porte pas Emmanuel Macron dans son cœur. Je pense qu'il préférerait quand même que ce soit Emmanuel Macron.
Oui, François Orsival aussi.
Naturellement. Oui. À quoi conduisent ces condamnations répétées? Elles ne font pas monter Benoît Hamon. Et Benoît Hamon
n'existe pas dans ses propos, d'ailleurs. Il n'existe pas du tout dans les propos du président de la République.
Absolument. Hein, Benoît Hamon. C'est Mélenchon, pour toutes les raisons que vous avez dites tous les deux. Mais ça conduit à quoi? Ça conduit essentiellement à renforcer Emmanuel Macron. Et donc à renforcer l'image de Emmanuel Macron égale Hollande saison 2.
Oui,
c'est tout simple.
Vous pensez que c'est ça, c'est vraiment pas finalement derrière un règlement de compte où François Hollande est vexé par rapport au score de Jean-Luc Mélenchon.
Je ne dis pas que Hollande veuille cela. Je dis que Hollande, comme l'ont dit mes deux confrères, est en train de vouloir effectivement régler des comptes avec Mélenchon, qu'il règle depuis 4 ans. Il ne faut pas oublier, le capitaine de pédalo, c'est quand même Mélenchon pur. Bon, mais aujourd'hui, la conséquence de ça en matière de vote, ça ne reporte pas une voix sur Benoît Hamon. En revanche, le but est de renforcer Macron, mais renforçant Macron, pour lui, c'est peut-être compliqué.
Allez, on va y revenir. Dans un instant, on parlera également d'Europe et bien sûr de ce qui se passe en Turquie. Programme chargé pour ce début de semaine dans les informés de France Info.
Et si appeler depuis et vers l'étranger ne coûtait pas plus cher?
Et moi, avec mon forfait Pro Orange, que j'appelle Londres depuis le bureau ou mon équipe depuis Londres, ça ne me coûte pas plus cher.
Ah, ok. Bah, moi, en plus, dans mon forfait Pro Orange, j'ai le Brésil, le Maroc...
Enfin, peut-être. Mais moi, en plus, je peux utiliser mes 40 gigas partout en Europe, au Canada et aux États-Unis.
Et moi, dans les DOM.
Avec le forfait Performance Pro Intense Travel, votre forfait Orange devient aussi international que votre business. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité. Plus de détails sur orangepro.fr.
Bonjour, c'est Jean-Michel Apathy.
8h30, Apathy, l'émission politique de France Info.
Une demi-heure de politique autrement, avec mon invité, et à mes côtés, Fabienne Sintès, Guy Birenbaum et Gilles Bornstein. Rendez-vous tous les matins, de 8h30 à 9h, sur France Info.
À la radio et à la télé, sur le canal 27 de la TNT. France Info Météo, avec Gauthier. Fabricant français de mobilier contemporain, à découvrir dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Des températures en baisse demain, le vent de nord va apporter de l'air plus frais. On retrouvera de petites gelées dans le nord-est le matin, 1 à 7 degrés ailleurs, jusqu'à 14 tout de même dans le sud-est. L'après-midi, pas plus de 9 degrés à Nancy, 10 à Reims et Besançon, 12 à Lille, Alençon, 13 degrés à Paris et Clermont-Ferrand, 16 à Nantes, encore 19 degrés à Bordeaux, 20 à Toulouse et Ajaccio, 22 à Montpellier. Côté ciel, toujours du soleil dans le sud. Attention au vent, la tramontane ira jusqu'à 70 km à l'heure, le Mistral jusqu'à 100. Entre le Grand Est, la Bourgogne, la Franche-Comté, un ciel changeant avec des averses, parfois un peu de grésil, un peu de neige dès 300 mètres le matin, 600 l'après-midi. Entre le nord de la Seine, la région parisienne et la Normandie, des averses le matin, puis les éclaircies prendront le dessus. Enfin, de la Bretagne et de la Vendée jusqu'au Berry, de belles périodes de soleil, peut-être un peu moins franches l'après-midi.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Édouard Marguier, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Et pendant ce week-end de Pâques, les candidats à la présidentielle ont chassé les électeurs. Emmanuel Macron, par exemple, a rempli la salle de Bercy à Paris. 20 000 personnes ont participé à son meeting cet après-midi. À 6 jours du premier tour, le candidat d'En Marche s'en est pris vivement à ses adversaires.
Sur 11 candidats, 10 veulent nous ramener vers un fantasme du passé, vers des frontières qui se ferment. Ne les sifflez pas, combattez-les, allez convaincre. Ils veulent nous faire croire pour les uns que c'est la grande punition qui nous attend. Pour les autres, que l'État s'occupera de tout, que la France s'isolera. Pour certains, ce sera Cuba sans le soleil ou le Venezuela sans le pétrole. Et d'autres voudraient nous enfermer dans un choix simple. Madame Thatcher ou Trotsky, Fidel Castro ou Maurras. Eh bien, mes amis, tout cela, toutes ces compromissions, tous ces reculs en arrière, toutes ces chimères ou toutes ces dérives, nous n'en voulons pas.
Le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron sur France Info. Marine Le Pen est à Paris, elle aussi en meeting depuis une demi-heure environ au Zénith de Paris. Réunion perturbée par une centaine de militants d'extrême gauche réunis devant la salle. Tour d'horizon de quelques autres candidats. François Fillon était à Nice. Jean-Luc Mélenchon a passé la journée sur la péniche insoumise à Paris, de la Villette jusqu'à la bibliothèque François Mitterrand. Et Benoît Hamon continue sa tournée dans l'Ouest. Il a participé à une course landaise dans le Gers. Après les violences d'hier soir à Bastia et l'interruption du match de football Bastia-Lyon, deux joueurs lyonnais portent plainte, victimes de griffures et de coups. C'est ce que le parquet de Bastia annoncent ce soir Anthony Lopez et Mathieu Gorgelin. Un autre joueur de l'Olympique lyonnais, Jean-Philippe Mateta, n'a pas souhaité saisir la justice pour le moment. Et puis un agent de sécurité du Stade Corse est mis en cause. Il pourrait être licencié dès demain. Trois Français sont morts dans le crash d'un avion de tourisme au Portugal. Il y avait en tout 5 personnes à bord. Un petit avion qui venait de décoller d'un aérodrome près de Cascais, à côté de Lisbonne, qui prenait la direction de Marseille. Les observateurs internationaux doivent rester à leur place. C'est ce que dit le président turc Erdogan, qui n'a pas du tout apprécié les remarques de l'OSCE et du Conseil de l'Europe. Tous les deux ont dénoncé les conditions d'organisation du référendum qui a eu lieu hier dans le pays. Un peu plus de 51% de la population a répondu oui, consultation qui prévoit d'étendre les pouvoirs du président Erdogan. Et puis le FSB dit avoir arrêté celui qui a organisé l'attentat de Saint-Pétersbourg. 20h33 sur France Info, Jean-Mathieu Pernin, la suite des informés.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et en ce lundi de Pâques, ils ne sont pas venus déguisés en lapin. Dommage, hein, diront certains. Bon, mais c'est mieux puisque si leur famille écoute ou regarde, voilà, ça serait un peu gênant. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Michel Hervois de Ouest France, la journaliste Audrey Rossigneux, François Dorcival de Valeurs Actuelles et également Christine Bière, donc porte-parole de Jacques Cheminade. Nous parlons justement de la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon qui était sur sa péniche. Demain, il sera en hologramme dans cette ville de France. Christine Bière, j'ai pas eu l'occasion de vous interroger tout à l'heure, vous-même, sur Jean-Luc Mélenchon.
Oui, par rapport à ces attaques de Hollande contre Jean-Luc Mélenchon, c'est, à mon point de vue, est différent. C'est-à-dire que je suis pas d'accord avec ces attaques de Hollande contre Mélenchon. Et le seul domaine dans lequel je pourrais soutenir Jean-Luc Mélenchon, c'est au contraire dans le fait de vouloir que la France retrouve une indépendance. Elle a passé, donc, 5 ans de soumission totale, presque immersion complète dans l'atlantisme. Et je pense qu'il nous faut effectivement sortir de ça, pouvoir parler à tout le monde de façon égale.
Vous voulez, par exemple, comme
une politique étrangère qui soit indépendante.
Voilà. Ouais,
on doit parler à absolument tout le monde et jouer le rôle de médiateur qu'on a toujours joué, donc, en tout cas à l'époque de De Gaulle.
On va y venir parce qu'on va parler de l'Europe dans un instant, mais juste avant, Michel Hervois, une péniche aujourd'hui, demain des hologrammes. En fait, mais non. Jean-Luc Mélenchon, depuis le début de la campagne, il veut être là où on l'attend pas, en fait. À chaque fois, on sent bien que la communication a été très intégrée par son équipe, quand même.
Ah oui. Elle est très, très intégrée. Il fait une campagne d'un point de vue technique qui est assez remarquable, qui est innovante, qui attire, qui intéresse. Il y a des gens conquis par ses idées, mais il y a des gens qui vont aussi un peu au spectacle, parce que c'est vrai que le premier meeting hologramme avait été une grande curiosité. Là, il en fait ses 6, je crois, d'un coup, ou 5.
C'est ça.
En même temps, la péniche, c'est une superbe trouvaille. Enfin, il n'y a que des trouvailles. La mise en scène du meeting de Marseille sur fond de vieux port, c'était une image exceptionnelle.
Alors, est-ce que ça...
Je parle bien de la forme.
Voilà,
je suis
alors,
pas
est-ce
en train
que cette forme,
de me faire
est-ce
l'avocat
que cette forme, ça en termes d'électeurs.
Ça rapporte en termes de communication, forcément.
Oui.
Parce qu'un meeting, personne n'en parle. Un meeting avec hologramme, tout le monde en parle.
Ouais.
Donc, ne serait-ce que pour que les gens regardent les extraits du meeting dans lequel il y a quand même, en plus des hologrammes, aussi des vrais morceaux de discours avec parfois des propositions. Quand les gens regardent l'hologramme, ils entendent aussi des phrases avec du programme de Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Si ça avait été un meeting comme ceux des autres candidats, sans doute, on en aurait parlé beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'on n'en aurait pas parlé. Mais on en aurait parlé moins. Même chose, la péniche insoumise, s'il avait fait un tour dans Paris... Même s'il avait fait le tour des marchés alors en allant serrer des louches avec tout le monde à des tracts, c'est vu partout. Là, il est allé sur une péniche. Qu'est-ce que ça change au fond ? Pas grand-chose. Simplement, il y a un côté festif, il y avait des musiciens, etc. Puis il a pu dire, c'était la péniche insoumise.
Oui.
Donc voilà. Et ben ça,
concept
ça vient...
assez étonnant de péniche
insoumise. Oui, c'est un concept, mais il n'a fonctionné que par concept.
Mmh.
Et ces concepts-là marchent. Il a manifestement une équipe de com qui réfléchit vachement à ça.
Beaucoup à ça. Oui, François Orcival, pour vous, le rapport justement entre la com et le rapport électeur, est-ce que finalement ça se voit ? Est-ce que ça sert véritablement ?
Alors... Réponse, oui, dans un premier temps, incontestablement. Il a fait, comme tous les gens interrogés le disent, une bonne campagne. Cette bonne campagne lui a permis non seulement de ne pas s'effondrer, encore que en début février, il était...
Il subissait la
candidature de Benoît Hamon, l'accord avec les Verts, etc. Tout ça l'avait ramené entre 12 et 13. Mmh. il est à 18, il est aujourd'hui stabilisé à 18. Il est vrai que les meetings par hologramme, ça a été extraordinaire la première fois. Peut-être que demain, ce ne sera pas le même effet. Mais c'est ça qu'il a travaillé pour effectivement obtenir que son électorat se consolide. Car nous ne devons pas oublier qu'en 2012, il a eu aussi des pointes dans les sondages qui ne se sont 17%. Pas révélées ensuite aux résultats.
Alors justement, c'est dommage hein, que notre machine à remonter dans le temps ne marche pas, parce qu'on a une machine à remonter dans le temps, France Info, hein, je tiens à vous le dire. Car il y a un an, voilà comment on voyait l'élection présidentielle. Un second tour, c'était sûr, François Hollande, Nicolas Sarkozy s'affrontant autour des thèmes comme l'identité, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre le chômage. Voilà, un an après, on discute beaucoup de morale et même d'Europe, figurez-vous. Alors, je sais pas ce qui s'est passé hein, entre-temps, un an. Oui, l'Europe et sa monnaie, l'euro, se sont invités dans les débats. Et la situation internationale nous oblige un peu à voir au-delà de nos simples frontières. Il y a des candidats pour l'Europe, d'autres qui souhaitent la changer, d'autres qui veulent en sortir et se passer de l'euro. Dans un instant, on va en parler avec vous, Christine Bier, vous soutenez Jacques Cheminade. Donc, vous avez vraiment un positionnement sur l'euro. Audrey Rossignol, c'est vrai que c'est pourquoi l'Europe, finalement, s'est imposée dans les débats. On voit que même, on en parlait tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se sont un peu fracassés là-dessus.
Mais sans doute parce que l'Europe a été présentée très longtemps comme la solution à tout et que maintenant elle est considérée comme la raison de tous les maux ou qu'en tout cas n'ayant pas tenu les promesses qu'on essayait de lui faire porter, elle devient le réceptacle de beaucoup, beaucoup de désillusions. Il ne faut pas oublier non plus que ça fait quand même depuis 2005 que les Français ont gardé, en tout cas pour 55% d'entre eux, au travers de la gorge, le résultat du référendum sur la Constitution européenne, où ils avaient majoritairement voté non, et leur non, on n'en a fait rien du tout, et je reste poli.
D'accord. c'est vrai que c'est toujours présent pour vous, François cette fracture au moment du traité, et notamment le traité de Lisbonne, pardon, et du référendum, traité de Lisbonne, qui a permis finalement de faire passer cette constitution.
Cette fracture
est toujours présente, reste là,
elle est présente, mais des événements sont venus la nourrir, avec des limites. Les événements qui sont venus nourrir cette fracture, c'est quoi? C'est la montée de ce qu'on appelle les partis populistes en Europe, avec un succès considérable du point de vue de l'effet qui est le Brexit, et puis d'autre part, des grèves qui n'ont pas prise mais qui révèlent quand même une proportion importante d'anti-européens ou d'eurosceptiques en Autriche, aux Pays-Bas, etc. Et donc, il est sûr que le Front National a construit sa campagne là-dessus, mais on en voit également les limites. On en voit les limites parce que, notamment sur l'euro, vous avez, une très forte partie de l'opinion française
Qui résiste à ça, et notamment, on le voit même aussi dans le programme du Front National. Auparavant, ça occupait une page entière, maintenant c'est une petite ligne, mais Marine Le Pen n'est pas très claire là-dessus. On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Baudot.
Le référendum turc est en deçà des normes internationales selon la mission d'observateur de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La réforme constitutionnelle visant à donner plus de pouvoir au président turc a recueilli 51% des voix. Mais l'OSCE estime notamment que les ressources administratives ont été utilisées à mauvais escient au profit du camp du oui. Ankara dénonce ce soir des conclusions biaisées des observateurs internationaux. À Rennes, des affrontements ont éclaté hier soir au sein de la communauté turque. Justement, la police a été appelée pour une bagarre impliquant une vingtaine de Turcs et de Kurdes dans le sud de la ville. Certains Turcs étaient armés de queues de billard et de barres de fer. Un policier a été légèrement blessé. Deux hommes arrêtés. Emmanuel Macron et Marine Le Pen en duel à distance ce soir à Paris. Dernière semaine de la campagne présidentielle avant le premier tour. Le candidat du mouvement En Marche a tenu un meeting à Paris-Bercy devant près de 20 000 personnes. La candidate du Front National est en ce moment sur la scène du Zénith de Paris. Quant à Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, il a embarqué sur une péniche cet après-midi en meeting en mouvement de Bobigny à la bibliothèque François Mitterrand à Paris. François Fillon était à Nice, Benoît Hamon dans le Gers. Un mot de la route. Journée classée rouge dans le sens des retours au niveau national. Principale difficulté dans le sens sud-nord et en direction de la région parisienne, entre Narbonne et Toulouse et entre le bassin d'Arcachon et la rocade bordelaise.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, dernière ligne droite avant le premier tour. Je vous rappelle, c'est dimanche. Voilà, si vous ne le savez pas, en tout cas, essayez de vous renseigner et on vous le dit. Et un thème, finalement, s'est imposé parmi d'autres. C'est vrai, on nous dit souvent, on n'a pas beaucoup discuté de programme pendant cette campagne, mais on a parlé dans tous les débats, de droite, de gauche, et même quand tout le monde était réuni sur une chaîne d'information continue à 11, de l'Europe. Alors justement, Christine Biavou, vous êtes porte-parole de Jacques Cheminade, et lui, c'est un candidat qui en parle beaucoup, notamment de l'euro, et vous, vous souhaitez en sortir?
Oui, nous pensons que l'Europe, celle-là, c'est un échec. C'est 1% de croissance depuis l'existence de l'euro. C'est incapacité de traiter les problèmes principaux, les migrants, la crise financière, etc. Donc, l'Europe est devenue aujourd'hui un Titanic. Et vous voyez, il y a même Erdogan qui ne veut plus en faire partie. La Suisse a retiré
sa demande de l'Europe.
Qui ne veut plus
y adhérer.
Voilà. Y adhérer, oui, pardon. Il faut en changer. Il faut sortir. Avant que ça
Mais pourquoi l'euro, justement, tout à l'heure, on l'entendait, une majorité de Français sont pour garder cette monnaie unique européenne. Pourquoi vous voulez sortir? Est-ce que ça ne déstabiliserait pas l'économie française si on sortait de l'euro?
C'est-à-dire que c'est parce qu'ils veulent un sens de stabilité qu'ils n'ont nulle part et ils ont l'impression qu'ils l'ont dans cette monnaie. Ce que nous pouvons dire, c'est que il faut redémarrer l'économie, c'est avoir un plan de reconstruction pour l'économie française qui soit digne de ce nom. Et pour ça, il nous faut récupérer le contrôle du pilotage, le contrôle de la banque centrale, si vous voulez, pour faire des émissions de crédit public qui vont être très ciblées sur un programme de développement pour créer 5 millions d'emplois. Et alors, là, ils auront une autre idée, si vous voulez, de quelque chose qui pourra s'appeler Eurofranc ou franc. Rebâtir une Europe, c'est donc
avec une monnaie, donc vous, c'est une Europe des nations avec une monnaie nationale, c'est ça?
Avec des monnaies nationales, mais avec un système européen de banques nationales, tout de suite.
D'accord. Alors, Michel Urvo, on voit, il y a beaucoup de candidats, comme Jacques Cheminade, qui parlent de l'euro, sortir de l'euro, même s'il faudrait s'y contraindre pour certains candidats, ça veut dire un référendum, etc. On voit que c'est une idée beaucoup plus prononcée que lors de la dernière élection présidentielle.
Mais il y en a à peu près la moitié, oui, qui sont sur ces positions-là, le Front National, Cheminade... Dupont-Aignan, oui, bien sûr.
Marine Le Pen et Mélenchon.
François Dorcival avait tout à fait raison tout à l'heure de faire la différence entre le jugement qui est porté sur l'Europe institution et sur l'euro. L'Europe est en crise, c'est pas la peine de faire des dessins. Le Brexit est venu parachever la démonstration. Mais l'euro, lui, n'est pas en crise. Et les Français n'ont pas envie de sortir de l'euro. Pourquoi? Ils sont pas fous, les Français. Ils savent, ou s'ils savent pas, ils devinent, qu'on emprunte, grâce à l'euro, à des taux qui sont exceptionnellement bas. 0,37% les emprunts en 2016 pour la France. Si on sort de l'euro, immanquablement, ces taux vont augmenter. La Banque de France considère que la facture serait de 30 milliards pourrait aller jusqu'à 30 milliards par an, simplement sur les emprunts.
Alors justement, Christine,
sans parler du coût, des autres coûts d'une sortie de l'euro.
Est-ce que finalement, aujourd'hui, on l'a vu lors de la situation en Grèce, à un moment où il y avait cette idée de sortir la Grèce de l'Europe, on a vu les plus grosses fortunes grecques partir de la Grèce. Est-ce que finalement, il n'y a pas, si on jamais on sort de l'euro avec votre programme, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi ça, finalement, les plus gros investisseurs français partiraient à l'étranger?
Non, il n'y a aucune raison que quiconque parte si nous pouvons assurer, par exemple, le taux de croissance de l'ordre de 5% annuel, comme c'était le cas à l'époque des Trente Glorieuses.
C'est beaucoup, 5%
pour l'ensemble de l'économie, donc des taux très, très importants pour les spéculateurs et presque rien pour les populations. C'est pour ça que nous disons on ne peut pas garder cette situation où l'euro est devenu une fausse monnaie quelque part. Et il faut lui donner un fondement de l'économie physique. C'est pour ça qu'il faut...
Je ne sais pas qui viendrait investir en France. Je crois qu'une des propositions de Monsieur Cheminade, c'est, en arrivant au pouvoir, d'examiner la légitimité de la dette. Vous imaginez?
Il n'est pas seul.
Mais vous imaginez les prêteurs internationaux regardant la France, pays où on remet en cause la légitimité de la dette, c'est-à-dire de l'argent souscrit à l'étranger, il ne va pas y en avoir beaucoup à venir.
Juste une chose qu'on entend tout le monde. Audrey Rossignol, quand vous entendez ça, finalement, ces candidats, différents candidats, ou même comme Jacques Cheminade qui se dit qu'il faut sortir de l'euro, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est des thèmes porteurs, ça, à votre avis?
Je pense que ça, c'est des... ces thèmes-là, comme le Brexit, etc., sanctionnent des années d'errement dans la construction européenne et le fait que des gens ont le sentiment que l'Europe protectrice, l'Europe politique, a été mise de côté au profit d'une Europe exclusivement économique et financière, et que, bah, du coup, qu'est-ce qui est symbolique d'une Europe économique et financière ? C'est l'euro. Et donc, forcément, c'est sur le coin de l'euro que ça tombe. Mais les gens qui parlent d'Europe dans cette campagne ne parlent heureusement pas que de ça. Il y a aussi des questions d'harmonisation européenne, etc. Enfin, de renégociation de traités. Il ne s'agit pas que d'en sortir et pas que de balancer l'euro par la fenêtre.
Oui, mais renégociation de traités, Jean-Luc Mélenchon dit, on renégocie, s'il n'y a pas d'accord, on s'en va. Donc c'est une autre manière de sortir de l'Europe.
Ouais,
donc
ça en fait un plus. Aussi,
oui, mais il y a une étape auparavant quand même. C'est ça. Dit qu'il y a d'abord on négocie.
Non, mais je dois dire que l'argument le plus fort contre toutes ces prétentions d'un certain nombre de nos candidats, c'est l'argument grec que vous avez cité il y a un instant. C'est-à-dire que les Grecs avaient tous les motifs, d'une certaine façon, de sortir de l'euro. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Ils ne l'ont pas fait parce que, réponse d'une certaine façon de Michel Hurvoy, parce qu'en restant dans l'euro, ils ont continué, un, de pouvoir bénéficier de la solidarité européenne, deux, d'emprunter à des taux mesurés, même si pour eux, effectivement, ils sont beaucoup plus élevés, et de voir les investisseurs étrangers venir, en quelque sorte, privatiser une partie de l'économie grecque. Ils avaient tous les motifs de le faire, ils ne l'ont pas fait, ils ne sont pas fous.
Alors il y a une seule chose, une question qu'on peut se poser aussi par rapport au programme de Jacques Cheminade, de Christine Bière, c'est vous militez donc pour un retour d'exploration spatiale, mais s'il y a un secteur européen qui marche bien, c'est Ariane Espace. Est-ce que finalement vous seriez prêt à vous en passer de ça ?
Mais pas du tout, si vous voulez, mais on n'a pas attendu l'Union économique et monétaire dans laquelle nous sommes depuis 92 pour faire des grands projets.
Ariane Espace, c'est un projet vraiment européen.
C'est d'avant l'Union économique et monétaire de 92. Les problèmes spatiaux européens datent de l'époque où on était dans une Europe des nations. Airbus date de cette époque aussi. Donc tous les vrais programmes productifs datent de l'époque où nous étions. C'est une Europe des patries et des projets. Et c'est vers ça que nous devons absolument revenir. Et on ne peut pas figer les choses dans le temps. Et j'ai l'impression qu'ici, vous tous, vous n'êtes pas au courant qu'il y a une crise financière qui continue. À sévir, que les banques principales ne peuvent pas prêter à l'économie et qu'elles empruntent à la BCE avec de très peu de taux d'intérêt pour aller spéculer ensuite à Londres. Mais par exemple, j'ai ici un rapport d'un sénateur Pierre-Yves Colomba qui a dit, donc, qui a été fait récemment le 9 février 2017, qui dit « Tous les ingrédients, anciens comme nouveaux, d'un nouveau crack sont donc là et aucun des spécialistes que nous avons rencontrés, même ceux dont la fonction est d'être optimiste, ne se risque à dire que le danger est derrière nous. »
Et donc, vous voulez le précipiter.
Nous voulons, Jacques Cheminade a joué en 95 et en 2012 le rôle, si vous voulez, d'un lanceur d'alerte, c'est par rapport à la crise financière, par rapport à l'espace, justement. Oui. Et là, à nouveau, il vous dit, on ne pourra pas maintenir cette situation en l'état, et il vaut mieux réformer avant de subir.
Allez, dans un instant, on va partir justement en Turquie pour parler de la situation sur place. L'info à 20h50, eh bien, c'est Pierrick Bonneau.
D'ailleurs, en marge du meeting de Marine Le Pen ce soir au Zénith de Paris, plusieurs dizaines de manifestants de collectifs antifascistes et d'extrême gauche ont tenté de s'approcher de la salle. Quelques projectiles lancés sur les forces de l'ordre qui ont riposté à coups de gaz lacrymogène. François Hollande prend acte du résultat du référendum en Turquie. L'Élysée a réagi à la courte victoire du oui hier pour un renforcement des pouvoirs de Recep Tayyip Erdogan. Le président de la République respecte le vote des Turcs, mais précise que les chiffres publiés montrent qu'en tout état de cause, la société turque est divisée sur les profondes réformes envisagées. Voilà ce qui est écrit dans le communiqué de l'Élysée. La Turquie dénonce ce soir les conclusions biaisées des observateurs internationaux qui pointent des irrégularités. Ankara se dit par ailleurs prête à organiser un autre référendum sur les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Trois Français sont morts dans le crash d'un avion au Portugal. Bilan fourni par la protection civile portugaise. 5 victimes au total. Le pilote, les 3 passagers et un homme portugais qui se trouvait dans l'entrepôt d'un supermarché sur lequel l'appareil de tourisme
tourisme s'est écrasé. On ignore les causes du crash qui s'est produit dans la région de Lisbonne. La bataille de Mossoul, qui entre dans son septième mois, a fait près d'un demi-million de déplacés selon les Nations Unies. L'offensive des forces irakiennes et les bombardements de la coalition ont poussé près de 500 000 personnes à quitter leur logement. Un volume de réfugiés ahurissant selon la coordinatrice humanitaire de l'ONU en Irak, alors que les combats font rage dans la vieille ville.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et l'on ne parle pas que de présidence en France, mais également en Turquie, où là il s'agit de questions de super présidence. Alors c'est vrai que ça fait un peu film de super-héros de série B, mais c'est le terme employé pour qualifier leur référendum visant à renforcer les pouvoirs du chef de l'État turc qui remporté hier donc par lui, Recep Tayyip Erdogan. Une victoire à l'élastique du sous-vêtement, mais une victoire tout de même. Hein. Désormais, Erdogan pourra notamment briguer des mandats présidentiels jusqu'en 2029, pour obtenir également la mainmise sur les pouvoirs législatifs et judiciaires. Selon la réforme, le président pourra avoir la haute main sur l'état d'urgence qu'il pourra proclamer en cas de, je cite, « soulèvement contre la patrie », on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ou d'actions violentes qui mettent la nation en danger de se diviser et gouverner par décret dans les larges domaines. Une dérive autoritaire dans un pays essentiel à l'équilibre de cette région. Audrey Signon l'a entendu ce soir. Recep Tayyip Erdogan, maintenant, on pensait... Voilà, qu'il allait faire un référendum sur le retour de la peine de mort. En fait, ça serait plutôt sur les négociations avec l'Union européenne, c'est-à-dire qu'il accentue.
S'il faisait un référendum sur la peine de mort, de toute façon, il signait l'arrêt de mort, si j'ose dire, des négociations sur l'entrée dans l'Europe.
Voilà, parce que c'est
une clause, voilà. Et donc là, effectivement, en tant qu'affaire, j'allais dire foutu pour foutu, autant faire son référendum sur la non-entrée dans l'Europe.
Ouais, c'est ça. Michel Hervois, on parle de dérive autoritaire, pour vous. Clairement, aujourd'hui, Recep Tayyip Erdogan a gagné finalement ce référendum, mais de justesse. Hein. Ouais. On peut véritablement parler là d'autoritarisme.
C'est pas nouveau d'ailleurs. La répression, elle existe depuis un certain nombre de mois.
Notamment depuis le putsch du mois de juillet dernier.
Mais c'est assez intéressant de regarder le parcours d'Erdogan parce que c'est quelqu'un qui est d'abord issu de milieux populaires. Il a été maire d'Istanbul. Il a réalisé des choses. Il a contribuer au développement économique du pays, même si aujourd'hui c'est moins vrai. Et puis, à la faveur des circonstances, le terrorisme, les affaires kurdes, etc., il est devenu quelqu'un qui a maté les rébellions, qui a fait baisser le caquet à l'armée, c'est un homme fort, mais un peu à la Poutine, un peu à la Trump, c'est un homme fort. Sa victoire n'est pas une grande victoire. Quand on voit les moyens mis en œuvre pour arracher un oui, c'est même une petite victoire.
Non, pas dire que ce soit un plébiscite.
C'est pas un plébiscite. Non. Alors c'est peut-être mieux d'ailleurs parce que du coup il se sentira peut-être un peu moins des ailes parce que il se retrouve à la tête d'un pays qui est plus divisé que jamais. Les villes n'ont pas voté comme les campagnes. L'ouest du pays, Istanbul, n'a pas voté comme le plateau anatolien. Divisé entre les religieux, les Kurdes, les laïcs. Pays. Émietté, là.
Et surtout quand on connaît l'importance de la Turquie dans cette région aujourd'hui, un rôle vraiment fondamental pour vous, François Orcival, c'est vrai qu'on peut dire de Erdogan que c'est au même niveau que Poutine, par exemple, c'est ce genre d'homme-là, d'homme fort.
Écoutez, je ne le comparerai pas avec Poutine parce qu'il y a une dimension religieuse qui est chez Erdogan qui n'existe pas dans le cas.
Mais au niveau
de
la manière de gérer son pays, de diriger son pays.
Ce qui est très dangereux pour nous, Européens, c'est quoi ? Il y a plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne le vote, Michel vient de souligner les disparités qui sont très, très grandes à l'intérieur. En revanche, le vote extérieur des communautés turques à l'étranger, vous vous rappelez, des meetings qui avaient provoqué beaucoup de polémiques. Eh bien, là, une majorité massive de ces communautés turques, s'est exprimée pour le oui, pour le renforcement des pouvoirs d'Erdogan. Mm. Deuxième remarque, il n'y a plus de relations techniques au sommet entre l'armée turque et l'OTAN. Or, la Turquie est un pays membre de l'OTAN. Mm. Ce qui veut dire qu'elle est dans une situation très compliquée et et pour nous dans cette région. Enfin, le sujet de la Turquie avec les Turcs, avec les Kurdes, pardon, oui, est extrêmement dangereux aussi, d'autant qu'il y a ce conflit auquel s'ajoute le deuxième contre l'État islamique.
Voilà, où les Kurdes sont en ligne de mire.
Ça fait un pays éclaté à l'intérieur, qui n'a pas de relation, et de moins en moins de relation avec l'OTAN, qui est en train de couper ses relations avec l'Europe et qui est isolé. Donc cette situation, oui, elle est dangereuse.
Et juste une dernière chose, Aude Rossignol, vous me disiez que aussi au niveau du travail des journalistes là-bas, on le sait, ce n'est pas simple. Donc ce soir, qu'il y a des observateurs qui disent que finalement l'élection, le référendum, c'est pas très bien passé.
Il y a le dernier bilan mondial de Reporters sans frontières, qui date de décembre 2016, fait état d'une centaine de journalistes qui ont été qui sont aujourd'hui en prison. C'est la plus grande prison au monde pour les journalistes.
La Turquie.
Aujourd'hui, ouais.
Merci beaucoup, en tout cas, Aude Rossignol, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci, Christine Bière, d'être passé également. La Une de Ouest France demain, Michel Hervois.
Oh, beaucoup de choses. On a un dossier sur les retraites, ce que proposent les candidats. On a Le Monde selon Trump, un papier de François Hesbourg, et puis des pages spéciales pour déclarer vos revenus. Ah, tout oui, ça pour la modique somme de 1 euro.
Mais comme vous le vendez bien, Ouest France, c'est incroyable. C'est incroyable. François Orcival.
La dernière ligne droite.
Dernière ligne droite, bien sûr. Voilà, en plus, il y a un mot qui vous convient très bien, finalement, dans ce titre.